Bien, je vous remercie donc de votre fidélité tout au long de cette journée. Avant de démarrer donc la table ronde 5 sur cette zone calme et facile à analyser qu'est le Moyen-Orient, avec quand même, me semble-t-il, un commentaire nécessaire sur le titre qui a été donné à cette séance dans la grande sagesse des organisateurs. Après les crises, quel ordre au Moyen-Orient ? Donc, on peut en conclure, les crises n'étant pas encore, c'est le moins qu'on puisse dire, terminées, qu'on va probablement balancer entre un état des lieux et une réflexion sur ce que pourraient être, en cas de sortie de crise, les reconstructions souhaitables pour avoir un ordre durable au Moyen-Orient. Pour nous éclairer, donc, nous avons le professeur Hamza Safavi qui va nous donner le point de vue de Téhéran, à supposer qu'il n'y ait qu'un seul point de vue à Téhéran, et qui est directeur de l'Institute for Islamic World Future Studies. Agnès Levallois, maître de conférence à Sciences Po à l'ENA et vice-présidente de l'IREMO, ce qui est la qualification majeure pour traiter des questions qui nous intéressent maintenant. Ali Kassantigil, politologue qui dirige la revue Anatolie et qui, après avoir eu de longues fonctions à l'UNESCO, donc aujourd'hui est analyste sur la Turquie. Et puis l'ambassadeur Denis Beauchard, qui a été en poste en Jordanie, qui a été directeur au Quai d'Orsay, Afrique du Nord, Moyen-Orient, et qui nous parlera du système de sécurité collective. La question est évidemment extrêmement complexe. Malgré tout, j'ai à demander à chacun d'essayer de faire un exposé de l'ordre de 12 à 15 minutes, de telle sorte qu'on puisse avoir, après les quatre exposés, un certain nombre de questions croisées entre les différents membres du panel, pour terminer à 17h30, c'est-à-dire dans exactement une heure et demie. So it would be up to you, Professor Safavi, to start by providing the view from Tehran.
Thank you.
Thank you for being with us.
Thank you. You're welcome. I come from a region in which two of the most ancient civilizations, out of five in the world, is located. The region includes 17 countries, its population is 400 million people more than that of Oceania, and having an area of 12 square kilometers. It's bigger than both Europe and Oceania. Also, in third decade of the 21st century, more than 80% percentage of oil global energy resources would be located in this region. The region is the lifeline between three continents, Europe, Asia, and Africa, having world's most important compulsory sea passage checkpoints like the Straits of Hormuz, Bab el-Mandab, Bosphorus, Dardanelles, Suez Canal. The region has a geostrategic importance in the world. But now, besides all mentioned issues, unfortunately, this region has become the red spot of insecurity, war, religious extremism, and instability on Earth, according to which not only the region but also all other parts of the world suffer its negative impact on their security. Therefore, invaders taking place in these conferences to investigate the religion security would be fruitful for both the countries of the region and whole world. Thanks, Mr. Professor Fouché, for doing this. The security issues of Middle East is so complicated, and due to multiple factors of different conflicts, layers influence on each other, is compared to Guardian not by some experts. We believe that a suitable solution is not impossible, but to provide solutions to move toward stability and security, we should have an applicable division of effective layers affecting insecurity in the region. The crisis in this region divided into three groups, which I would briefly mention. A, fundamental crisis. First is water crisis. As you see in map, in 2040, the red point of the lack of waters in the world, you can see, is located in Middle East. The world situation in future, we have something like this here, and war, it may be caused to war, lead to war. The first one is water. Oh, second, the border crisis and territorial disputes. I have a map about this. If you see in the Middle East, all the red circle is some crisis, territorial crisis. As you see, there is full of crisis in the Middle East. You know about just Salafism and Daesh, but we have another problems that in future it may lead to the conflicts. Third, the identity crisis due to the great disappointment on the failure of the Arabic nationalism led by Jamal Abdel Nasser in the Arabic Middle East. It's important. Fourth, the crisis caused by the incomplete and superficial nation-state building in Arabic Middle East after the collapse of the Ottoman Empire and the Sykes-Picot Agreement. This is the first layer. B. The crisis caused by the public culture of nations. First, the social crisis caused by dealing with traditional culture and modernism and unsolved conflicts resulted by. Second one, dogmatism and lack of tolerance culture among the nations of the region. Third, promotion of tribal culture in some nations in the region. Fourth, Wahhabi and Salafi thoughts and religious extremism. This is the B layer. The C layer, the crisis caused by the governments. First, the crisis caused by the oil states and rentier economies. Second, authoritarian governments, tribal governments, and governments dependent to foreign powers. Third, rented security, inability to create an intra-regional security system, and switching to trans-regional powers to secure the region. Fourth, the crisis of the government legitimacy by people which has threatened independence of some oil states to make concession in return to a guarantee for survival. Five, the Israeli-Palestinian conflicts. Six, bureaucratic corruption and inefficiency of many governments. I have another map here. If you see to the red points, it's about the governments in the Middle East, and we have problem with them. Seven, powerful states dissatisfied with the conditions of the region and active to change the regional equations in favor of their interests, including Saudi Arabia, Iran, Qatar, and Turkey. Eight, widespread distrust among governments of the region. Nine, prevalence of arms competition. Middle East crisis is largely the result of interaction between the mentioned layers. But what would we do? Spencer Johnson is a metaphor in his book, Who Moved My Cheese? For moving big cheese, says it cannot be moved at once, but piece by piece. It seems that among the three categories of the above mentioned crisis, the first, second, and third categories can respectively be improved in long term, medium term to long term, and short term to medium term condition. Therefore, the best and the reasonable approach is to start from the third category, providing a security model for the region needs a broad time with the participation and consultation of a group of elites. But in my limited time, I try to name some points that guide us toward just peace and sustainable security in the region. To establish sustainable security in the Middle East, we need to reform. This reform should be in three levels of statement, socio-scientific elites, and the nations. For the three above mentioned levels of following point appear to be useful. One, first, trying to define and develop a cosmopolitan identity versus religious and national identities. Two, supporting and highlighting the moderate elites by international organizations and transregional countries. Three, strengthening the purpose concepts, including human and the country's infrastructures development, and strengthening the public demand to achieve it. Four, promotion of objectivity instead of subjectivity. Five, promotion of tolerance to accept difference and have peaceful environment, good neighborhood policies. 6, competing on selling arms in this region have economic benefits for many foreign powers and turn the region into a large cache of gunpowder. When we consider the mentioned issue with tribal states, lack of rationalism and large-scale corruption in some country, it would increase possibility of the insecurity affecting other parts of the world. Turning the region into an arsenal is not in favor of any countries, and it must be limited. Global security is in priority to economic interest of some of these arms companies. 7, a threatening rationalism and result orientation in the region by moderate experts familiar with international norms. 8, trans-regional intervention in long term, even with the best intention, will have negative consequences. Nine, regional awakening is the most important thing in the region. This regional awareness must be based on global consideration and global norms, but should be done through genuine regional solutions. 10, peace, security, and stability consideration in the region must be in priority for Western countries and international organizations, rather than national interest and financial advantage of oil windfalls of some countries of the region. Okay, I pass some points because of lack of time. This is about what I mentioned. At the end, I want to say that, as I mentioned before, unfortunately, the outlook of conflicts in Middle East, whether geographically and on water crisis or competition over spheres of influences or dominated political culture of the region, would be interpreted as a warning about a risk. Continuation of current trend would led to the growth of barren disputes, which are harmful for all regions, all regional players, and has no winner. But what must be done? Now is the right time for big but difficult decision. Waste of time is a detriment to stability, development, and just peace in the region. Making such decision can be hard, but if made and investigated correctly, can be in favor of countries. In a state domain, as I mentioned before, one of the most important issues in the region is the proxy wars done by regional powers like Iran, Saudi Arabia, and Turkey due to their dissatisfaction with the status quo to expand their influences area. What need is a basic step and big decision. and that is an agreement on stabilizing the current situation and the current spheres of influences. No, all three significant players are in search of increasing their proportion and being satisfied by the present situation seems difficult, but it will be different if future studies is done. So my suggestion. This is a four steps to have better situation in Middle East. First step is to get mind closer agreement on general principles. The second is the general consensus on the idea of cooperative security theorized by Catherine Ashton, William Perry. I think we can use this model for Middle East. Third is the establishment of a strategic monetary pattern of cooperative security. Fourth, partial and transparent cooperation. So it led to this model for Middle East. We should have attended to individual security, then collective security, then collective defense, and promoting stability. At the end, I want to say that to test the cake of interest in Middle East, we need a stable table. So we should move step by step in the circle above from individual security to promoting stability. In this process, we need the cooperation of all players. There is a proverb in Persian says, one hand cannot make sound. Thank you for listening.
Thank you very much indeed, merci beaucoup. Désolé d'imposer un horaire contraint face à l'ampleur du sujet, mais la règle sera la même pour tout le monde. Et donc je passe la parole à Agnès Levallois, qui a été chargée de définir quel pourrait être cet ordre régional au Moyen-Orient dont vous nous avez parlé comme un objectif probablement difficile à atteindre. Pour le moment. Agnès. Oui, oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Alors moi, je vais m'attacher à essayer de réfléchir à quel pourrait être cet ordre régional au Moyen-Orient, en parlant surtout des pays du Golfe, en parlant des pays du Conseil de coopération du Golfe, puisqu'on vient d'avoir la vision iranienne, nous aurons la version turque tout à l'heure. Et donc moi, je vais essayer de réfléchir à ce que pourrait être cet ordre régional concernant les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et il est clair que le sujet a une résonance particulière aujourd'hui avec la crise que traversent justement ces pays du Golfe, avec la crise en particulier qui voit s'opposer aujourd'hui l'Arabie saoudite, les Émirats d'un côté et le Qatar de l'autre. Nous assistons là à une crise à l'intérieur d'une instance de coopération régionale qui est ce Conseil de coopération du Golfe qui a été créé en 1981. Conseil de coopération du Golfe qui a vu le jour de la nécessité après la révolution islamique en Iran face à l'inquiétude que pouvaient ressentir ces pays du Golfe face à l'émergence de cette république islamique de l'autre côté du Golfe. On voit que ce système qui a été mis en place, ce système de coopération du Golfe, qui était avant tout une institution économique, mais également de défense, puisqu'on a vu les pays du CCG intervenir au lendemain des révolutions arabes, à Bahreïn en particulier, en 2011, lorsqu'il y a eu cette tentative de soulèvement. On a vu ces pays de ce CCG, en particulier l'Arabie saoudite, intervenir très rapidement pour mettre fin à cette contestation, à ce mouvement de contestation, estimant qu'il ne pouvait pas y avoir justement de contestation au sein de ce CCG et qu'il n'était pas question que l'ordre qui existait au sein de ces pays ne soit remis en question par un mouvement populaire, par un mouvement de contestation populaire. Et donc là, il y a eu une réaction extrêmement vive en 2011 pour mater cette révolte. Et d'ailleurs, tout est rentré dans le rang assez rapidement. On a le sentiment aujourd'hui que l'Arabie Saoudite entend faire un peu la même chose avec le Qatar, où l'Arabie souhaite finalement que le Qatar retrouve une place qu'il estime être devoir la place qui devrait lui revenir, à savoir être complètement sous la coupe, ou en tous les cas respectant la politique telle qu'elle peut être élaborée à Riyad, et Riyad ne supportant pas l'autonomie démontrée par le Qatar maintenant depuis des années, avec en particulier le rôle joué par ce petit émirat de soutien aux frères musulmans, de soutien à un certain nombre de groupes se revendiquant de l'islamisme politique. Et donc toute la question va être de savoir si le Qatar va rentrer dans le rang et donc si ce système de coopération régionale tel que je le définis, qui est le Conseil de coopération du Golfe, va survivre à cette crise, ce que je pense bien évidemment. Mais est-ce que du coup ça va être la mise en place de cette volonté saoudienne d'être vraiment le maître du jeu et cette Arabie ne voulant pas avoir quelqu'un qui s'oppose ou en tous les cas qui entend faire une petite voix différente de celle qui est imposée par cette Arabie qui est évidemment le pays le plus important de la région et qui à ce titre entend justement remplir son rôle de puissance régionale et n'ayant pas l'intention de laisser, de partager ce rôle avec d'autres. Alors, il y a déjà eu d'autres tentatives depuis que le Conseil de coopération du Golfe existe. Il y a eu aussi d'autres tentatives, et je pense à une en particulier qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui a été ce qu'on avait appelé la déclaration de Damas en 1991. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En mars 1991, au lendemain de la guerre du Golfe, il y a eu cette volonté de la part des pays du Golfe, mais d'associer l'Égypte et la Syrie à un système de coopération régionale, estimant que l'Égypte et la Syrie étaient quand même deux poids lourds aussi de la région et que pour essayer justement de mettre en place un système régional permettant de pouvoir éventuellement affronter d'autres crises sans faire appel forcément aux puissances internationales, il y a eu cette volonté de mettre en place ce système et qu'on a connu sous le nom de déclaration de Damas. Or, cette déclaration de Damas, finalement, elle n'a pas donné grand-chose, alors que l'objectif, c'était de mettre en place une armée arabe de maintien de la paix, avec quand même, l'ambition était assez grande, avec 55 000 hommes, dont 35 000 soldats égyptiens. Mais finalement, ça n'a pas vu le jour, parce que je crois que les Saoudiens en particulier ont été un petit peu inquiets, finalement, du rôle que du coup auraient pu jouer l'Égypte et la Syrie dans la mise en place de cette force, puisque ça aurait pu mettre en difficulté ces pétromonarchies qui, elles, à l'époque, n'avaient pas de ressources humaines suffisantes pour pouvoir jouer un rôle, même si c'était elles qui allaient financer, évidemment, parce que ce n'était pas l'Égypte et la Syrie qui avaient les possibilités de financer une telle force. Mais ces pétromonarchies, après avoir lancé cette idée, finalement, se sont rendues compte du danger que ça pouvait représenter, parce que les hommes, les soldats, ou cette force de maintien de l'ordre, seraient composés avant tout de soldats syriens et égyptiens, et que ça n'était pas tout à fait envisageable pour ces pétromonarchies, et qui ont préféré donc mettre ça de côté et continuer à établir une réflexion sur leur sécurité à partir d'une coopération avec des agents ou des puissances internationales. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit à la faveur de la crise actuelle au sein du CCG, mais d'une façon plus générale, depuis les mouvements des contestations arabes, depuis les mouvements des révolutions arabes, on voit que de plus en plus, ce sont les puissances régionales qui entendent réfléchir à leur propre système de sécurité et leur propre ordre régional, plutôt que de faire appel systématiquement à l'extérieur, comme c'était le cas jusque-là. Et donc, en ce sens, pour moi, en tous les cas, ces mouvements de contestation depuis 2011 ont induit un changement majeur dans la perception par ces pays de la région de leur environnement et de leur capacité à vouloir eux-mêmes intervenir sur des terrains et non pas faire appel à des acteurs étrangers, comme ça a été le cas en 2003, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, où il y a eu l'intervention des Américains avec la fameuse coalition internationale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Un des exemples qui démontre cela, c'est évidemment l'intervention au Yémen, où là, l'Arabie saoudite décide d'intervenir directement au Yémen en faisant appel à d'autres forces de la région, parce que toute seule, l'Arabie n'a pas forcément envie d'abord d'agir toute seule et a besoin de s'appuyer sur d'autres acteurs. Mais on voit l'Arabie saoudite être leader dans cette opération militaire menée au Yémen, avec l'appui des Émiriens, mais avec l'appui aussi d'autres pays arabes, même si l'Égypte, comme vous avez pu le constater, traîne un peu des pieds, parce que le souvenir d'une guerre précédente au Yémen est encore un souvenir assez cuisant, et que l'Égypte est très prudente dans sa capacité à intervenir à nouveau sur un conflit sur une scène régionale. Mais au-delà de la question de l'Égypte, ce qui est, je trouve, très intéressant dans cette affaire yéménite, c'est que ce sont vraiment les Saoudiens, avec leurs alliés, qui décident d'intervenir en demandant un appui, puisqu'on sait qu'il y a un appui américain en termes d'armement, en termes de livraison d'armement, mais aussi en matière de renseignement pour aider les Saoudiens à mener cette opération. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ans, on aurait imaginé, en tous les cas, que l'Arabie saoudite agirait elle-même avec une volonté que les acteurs régionaux soient en première ligne et décide de réagir en première ligne. Donc ça, c'est un élément qui est nouveau dans ce contexte régional et qui fait que aujourd'hui, on voit bien que la réflexion de ce nouvel ordre régional est une réflexion qui se fait au sein même de la région, avec éventuellement des appuis évidemment extérieurs. Je ne dis pas que les puissances internationales n'ont plus leur mot à dire, mais elles ne sont plus en première ligne comme elles l'ont été jusque-là. Et ça, c'est un fait nouveau, tout à fait intéressant et tout à fait important à prendre en considération pour comprendre aussi ce qui se joue et pour essayer d'imaginer ce que va pouvoir être ce nouvel ordre ensuite. Il y a eu un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est que pareil, au lendemain des révolutions arabes, on a vu justement ces pays du CCG qui se rendent bien compte. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la déclaration de Damas, même si on l'a un peu oublié, c'est que ces pays du Conseil de coopération du Golfe se rendent bien compte qu'ils ne sont pas suffisamment forts et qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources humaines propres pour pouvoir être véritablement influents, et qu'ils ont besoin de faire appel finalement à des alliés régionaux pour essayer de mettre en place ce nouvel ordre. Donc dans le cadre de la déclaration de Damas, c'était de faire appel à l'Égypte et à la Syrie. Et au lendemain des révolutions arabes, on a vu ces pays du CCG faire des appels du pied très, très insistants au Maroc et à la Jordanie pour les intégrer dans ce Conseil de coopération du Golfe, avec là une idée qui était un peu différente de celle qui avait été celle de la déclaration de Damas, mais qui était finalement de réunir les monarchies du Moyen-Orient et de façon plus large du monde arabe pour essayer de mettre un terme à ces révolutions et faire en sorte que de renforcer ces monarchies et que ces monarchies ne soient pas touchées par ce mouvement de contestation qui avait vu le jour en Tunisie, en Égypte et plus tard au Yémen et également en Syrie. Mais il n'y a pas eu de réponse positive de la part du Maroc et de la Jordanie à cette offre des pays du CCG. C'est vrai que le Maroc se voyait pas intégré, ça faisait quand même très club monarchique, et donc le Maroc, même si le Maroc est une monarchie tout à fait établie, reconnue et admise en tant que telle par les Marocains, le théâtre était quand même très éloigné de ses préoccupations, et que le Maroc n'est pas du tout dans une dynamique de vouloir intégrer un ordre régional prioritairement golfien. Mais le Maroc, évidemment, est beaucoup plus tourné vers aujourd'hui une stratégie vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, mais beaucoup plus préoccupé par la question libyenne, évidemment, parce que c'est pas loin de ses frontières, avec des risques de déstabilisation, la question algérienne, qui est une question qui reste pendante. Et donc le Maroc ne voyait pas d'intérêt à rejoindre une institution qui, au plus, aurait pu causer des problèmes en interne vis-à-vis de sa propre population, se demandant pourquoi le Maroc allait se perdre dans les sables du Golfe, alors qu'il y avait d'autres questions plus importantes à gérer dans un environnement immédiat et qui pouvaient mettre en cause sa stabilité. Et donc l'objectif était beaucoup plus de rester sur son territoire que d'aller s'aventurer dans le Golfe, même si le Maroc a un intérêt. Et vous avez peut-être suivi d'ailleurs dans la crise qui existe aujourd'hui, on a vu le Maroc envoyer des avions et par avion envoyer de l'aide alimentaire au Qatar pour tenter de briser l'embargo, ou en tous les cas de soulager l'embargo embargo qui touche aujourd'hui le Qatar avec le système qui a été mis en place par l'Arabie Saoudite de fermer la frontière et donc de gêner de façon très significative l'approvisionnement, en particulier en produits alimentaires du Qatar. Et ça ne nous a pas échappé, nous sommes aussi pendant la période du Ramadan, qui est une période sensible et pour laquelle le roi donc joue aussi de son autorité religieuse pour montrer qu'il ne va pas laisser des populations de la région avoir éventuellement des difficultés d'approvisionnement alimentaire, en particulier pendant ce mois sacré qui est un mois important pour tous les musulmans. Donc, pour revenir à la question donc, de cet ordre régional au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, à travers son conflit avec le Qatar, essaye de mettre un terme de façon claire à ces mouvements de contestation qui ont ébranlé la région depuis 2011. Et donc là, c'est une façon de faire rentrer le Qatar dans le rang pour que le Qatar arrête de soutenir les mouvements de l'islam politique qui ont été à la manœuvre très vite après le déclenchement de ces révolutions arabes. Donc c'est une façon pour l'Arabie Saoudite de dire au Qatar, maintenant c'est fini, on signe la fin de la partie et il serait temps maintenant de rentrer dans le rang, que le Conseil de coopération du Golfe doit parler d'une seule voix et il n'est plus question que le Qatar ait sa propre diplomatie et sa propre politique de soutien à des mouvements de contestation qui peuvent déstabiliser certains des pays de la région. Et c'est en ça qu'on voit bien que ce sont les Émirats Arabes Unis aussi qui sont vraiment à la manœuvre dans cette affaire de l'Arabie Saoudite et du Qatar, puisque pour les Émiriens, il y a vraiment une bête noire à abattre, ce sont les frères musulmans, et que donc le soutien apporté par le Qatar aux frères musulmans est vraiment une ligne rouge que les Émirats n'acceptent pas, et donc les Émirats sont vraiment, me semble-t-il, à la manœuvre dans cette affaire avec l'Égypte, parce que ça ne nous a pas échappé que les Égyptiens aussi sont évidemment dans une position extrêmement raide à l'égard de tout ce qui est frères musulmans et tout ce qui est opposition. Et donc on met tout le monde un peu dans le même panier, si vous me passez l'expression, pour dire maintenant il faut arrêter tout ça et on va reprendre les choses en main et nous allons essayer de mettre en place un système régional avec en deuxième plan la question évidemment de l'Iran et l'inquiétude très forte que suscite l'Iran pour l'Arabie Saoudite. Et donc l'Arabie Saoudite souhaite que ce CCG soit en état de marche, si je puis dire, sans aucune voix qui dépasse, pour pouvoir aussi être en mesure d'affronter la question iranienne, ce défi qui est un véritable défi pour l'Arabie Saoudite, qui se sent éminemment fragile, qui se sent éminemment menacée par l'accord qui a été signé en 2015 entre l'Iran et les pays occidentaux. Et donc là, il y a vraiment cette... Je crois qu'on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui et à ce que pourrait être un nouvel ordre régional si on ne comprend pas cette obsession et cette inquiétude très grande que représente l'Iran pour les Saoudiens. Et donc, il me semble qu'un système ou un nouvel ordre pourrait émerger à terme dans la région à partir du moment où on pourrait, où l'Arabie Saoudite pourrait se sentir rassurée. Je crois que tant que l'Arabie se sentira extrêmement fragile, extrêmement vulnérable, il n'y aura rien qu'il pourra se mettre en place parce que cette inquiétude de l'Iran empêche finalement l'Arabie même de pouvoir réfléchir à un quelconque système d'ordre régional parce que tout passe par cette obsession et cette inquiétude que représente l'Iran. Donc une des possibilités, je crois, de pouvoir arriver à quelque chose, ce serait peut-être d'aider, comment ça c'est une autre question, mais de rassurer l'Iran, l'Arabie Saoudite, pour que celle-ci se sente moins menacée. Alors qu'elle se sente menacée, que ce soit du fantasme ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, la réalité, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Et à partir du moment où elle se perçoit comme ça, ça l'empêche de pouvoir penser autrement que ce qu'elle fait aujourd'hui, à savoir d'être dans une espèce de course, de frénésie, d'essayer d'être le leader de ces pays, de ce CCG, mais en prenant des moyens qui, à mon avis, ne peuvent pas permettre justement à mettre en place un nouvel ordre régional, parce qu'il y a cette obsession iranienne qui empêche, je crois véritablement, à l'Arabie Saoudite de penser, de se projeter et de pouvoir imaginer un système permettant de stabiliser la région. Mais je crois que j'ai déjà été un peu trop long, donc je vais... Bien. Bon, alors je m'arrête là.
Merci beaucoup. Je pense qu'on aura des questions à suivre, parce qu'il y a évidemment des enjeux absolument décisifs dans l'analyse des différentes modalités, et on a là de quoi avancer. Donc je me tourne vers Ali Kassansigil maintenant pour une analyse de la région vue par la Turquie. Et là encore, y a-t-il un seul point de vue turc ou plusieurs ?
Ça marche, oui. Merci. Donc, un peu plus près. D'accord. Comme ça, ça va. Donc, je n'ai pas directement parlé du Moyen-Orient, mais du Moyen-Orient vu de la Turquie, en quelque voilà. sorte, et des relations entre ce pays et la région. Ces relations ont quasiment disparu au début de la République turque, qui créée en 1923. Le kémalisme laïque a tourné le dos au Moyen-Orient pendant longtemps. Mais cependant, auparavant, entre les débuts du XVIe siècle et les accords Sykes-Picot, le Moyen-Orient a fait partie de l'Empire ottoman. Donc, cette histoire de longue durée joue quand même. Alors, comment est-ce que la Turquie éventuellement pourrait contribuer à un ordre dans le Moyen-Orient ? Je n'ai pas de réponse à la question, mais je la pose au départ. Il faut bien voir le rapport de la Turquie aussi, toujours dans la longue durée, au Moyen-Orient, en ce sens que la Turquie est un pays de la région intermédiaire. Ce sont souvent les historiens ottomanistes qui utilisent ce terme, notamment par exemple l'historien grec Dimitri Kitsikis. C'est quoi ? C'est la région qui est en gros entre la mer Caspienne et la mer Adriatique. Et la Turquie est au cœur de cet espace, de cette région, puisque son territoire, c'est comme un pont rectangulaire jeté entre les Balkans et le Caucase. Donc, c'est au voisinage, bien sûr, du Moyen-Orient, mais ce n'est pas dans le Moyen-Orient. En plus, il y a eu donc ce passé historique. Alors, cette dualité de la Turquie fait que ce pays s'intéresse à la fois au Moyen-Orient et à l'Union européenne du point de vue essentiellement, de nos jours, économique. Politique aussi, mais enfin économique. Bien sûr avec l'Union européenne, avec l'Alliance Atlantique, elle est membre de l'OTAN depuis 1954, mais avec le Moyen-Orient, l'intérêt de la Turquie républicaine a vraiment commencé dans les années 1980, lorsque la Turquie a commencé à se développer vraiment économiquement, commencé à sortir de son statut de pays en développement périphérique vers une puissance émergente qu'elle est devenue aujourd'hui. Et du coup, les dirigeants turcs se sont bien sûr intéressés au Moyen-Orient comme des marchés d'exportation essentiellement, et non pas pour des raisons politiques ou confessionnelles, etc. Alors, d'autant plus que, comme je le disais, pendant longtemps, le pays avait tourné le dos au Moyen-Orient. Alors, à partir de 1980, cet intérêt s'est développé et a continué sous le gouvernement de l'AKP, le islamo-conservateur, le pouvoir islamo-conservateur qui est arrivé au pouvoir en 2002. Et qui a lancé une diplomatie multidirectionnelle très ambitieuse qui concernait au premier plan son voisinage, le Moyen-Orient, le Caucase, la région de la mer Noire, les Balkans, etc. Et au Moyen-Orient, au début du nouveau siècle, le gouvernement de l'AKP a proposé une zone de libre-échange, évidemment, organisé autour de son économie. L'idée, donc, c'était d'ouvrir les frontières, enlever les visas, et ça s'est d'ailleurs mis en exécution assez rapidement, donc ouvrir la zone économiquement et financièrement. Et cette initiative qui était, ça n'a pas été dit, mais enfin peut-être implicitement, sans le dire, inspiré par l'exemple de l'Europe, d'abord une communauté économique, ensuite une union politique. Si l'initiative avait été acceptée par les pays de la région, cela aurait pu peut-être conduire une sorte aussi de coopération politique dans la région. Ce n'est pas certain, bien sûr, enfin, c'était une perspective. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et finalement, la Turquie s'est pas tellement intéressée au-delà de ses exportations à la région. Il y a eu ensuite, bien sûr, la crise syrienne en 2011. Erdogan a essayé de convaincre Assad de faire des réformes pour calmer ses populations. Ça n'a pas été entendu. Et puis, il est devenu totalement hostile et a voulu participer à la guerre syrienne. La Turquie a été admise dans la coalition internationale dirigée par les Américains, sauf que le gouvernement turc a fait l'erreur énorme, la bêtise, je dirais, de soumettre la question syrienne à ses considérations, préoccupations domestiques. Parce qu'il y avait tout le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie la communauté kurde de Syrie qui vivait, et Erdogan était obsédé par cela, avait très peur que le PKK turc, l'organisation de guérilla qui lutte contre l'État turc, s'allie avec le parti syrien, le PYD, qui est déjà une sorte de branche du PKK, et que cela fasse à terme un territoire entre le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Et donc, il a donné la priorité à cela, au lieu de lutter contre Daesh, contre l'État islamique, il a même fait une sorte d'alliance implicite avec cette organisation djihadiste. Il y a eu les djihadistes qui sont arrivés en Turquie, se sont installés. Il a refusé pendant longtemps de bombarder le Daesh. Et même le gouvernement est allé dans son erreur, dans sa stupidité, je dirais, jusqu'à interdire ses aéroports dans le sud de la Turquie aux avions de la coalition. Ensuite, au-delà de certains temps, ça s'est arrêté. Mais enfin, le mal était fait. Les Américains se méfient maintenant des Turcs, se sont méfiés des Turcs en Syrie. Ils ont donné un soutien fort, ils continuent, aux Kurdes de Syrie pour lutter contre Daesh, avec succès. Succès d'ailleurs. Et les Turcs étaient absents des offensives contre Mossoul en Irak et contre Raqqa. Finalement, en 2017, Erdogan a été obligé de retirer son armée de la Syrie. Donc ça a été un fiasco total. Mais de toute façon, encore une fois, la présence de la Turquie dans la région est limitée. Il y a une base militaire au Qatar, d'ailleurs. Après l'agression saoudienne contre le Qatar, les Turcs ont immédiatement envoyé des soldats supplémentaires sur cette base et ont offert leur soutien aux Qataris. Il faut dire que, et c'est une posture historique vraiment de longue durée, la Turquie a toujours été extrêmement prudente, et l'Iran aussi, contrairement, les deux grandes puissances structurantes de cette région depuis des siècles ont toujours été extrêmement prudente vis-à-vis l'une de l'autre, et je pense que l'intervention du Qatar, il y a aussi un facteur idéologique qui a joué. Le gouvernement d'Erdogan, comme l'émirat du Qatari, sont proches des frères musulmans, mais c'était essentiellement stratégique et c'était une forme de prise de position implicite au moins dans la lutte pour la domination du Moyen-Orient, pour l'Iran contre l'Arabie saoudite. D'ailleurs, la Turquie, aujourd'hui, fait partie de ce trio qui gère la crise syrienne, ce qu'on appelle le triangle d'Astana, c'est-à-dire la Russie, qui est le leader, et puis l'Iran et la Turquie. Donc, en quelque sorte, la Turquie sunnite, entre guillemets, c'est un pays laïque, mais enfin, était laïque. C'est la Turquie sunnite coopère avec l'Iran chiite, militairement. Donc, il y a, si vous voulez, cette espèce de à la fois d'intérêt pour le Moyen-Orient, où d'ailleurs la place de la Turquie est très affaiblie, mais en même temps, une attention. Il est vrai que, je termine là-dessus, la Turquie, je disais, fait très attention à l'Iran, veut collaborer, mais en même temps, sans le dire, la diplomatie turque ou Ankara est très, très gênée, enfin, un peu inquiet, pas très gêné, mais enfin un peu inquiet par le fait que au Moyen-Orient, l'Iran aujourd'hui a à sa disposition en quelque sorte un territoire qui va du Yémen à la Méditerranée. Donc voilà, encore une fois, je pense que au-delà des questions économiques et de certaines questions de préoccupations stratégiques, le Moyen-Orient n'est pas tout à fait prioritaire dans la diplomatie turque actuellement.
Merci beaucoup d'avoir été aussi synthétique sur une question complexe.
Pas
du tout. La synthèse n'est pas un appauvrissement, c'est une qualité. On reviendra donc, puisque la sagesse de la longueur de vos interventions va permettre d'avoir du temps pour le débat. Et c'est une invitation lancée à Denis Bochard, qui a Merci. Pour charge de s'interroger sur ce que pourrait être un éventuel système de sécurité collective.
Merci beaucoup. Effectivement, mon exposé s'inscrit dans la continuité et je voudrais essayer d'évoquer ce que pourrait être un système de sécurité au Moyen-Orient, plus spécialement dans le Golfe. Dans le Golfe que certains disent arabe, d'autres persique, et ceux qui sont à la recherche de compromis arabo-persique. Le Golfe a été effectivement toujours une région extrêmement sensible pour des tas de raisons, compte tenu de sa place géographique. C'était une zone de contact entre le monde persan, le monde arabe, le monde turc aussi. Depuis plus d'un siècle, c'est un réservoir qui reste toujours très important en matière d'hydrocarbures. La création de l'État d'Israël en 1948 a ajouté, je dirais, encore un élément, je dirais, stratégique, notamment pour les États-Unis. Ce Moyen-Orient est donc en chaos. En chaos, et pour de nombreuses raisons, et parmi ces raisons, il y a sans doute effectivement l'affrontement que nous constatons actuellement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pourquoi ces tensions entre ces deux pays? Comment se manifestent ces tensions et comment on pourrait essayer de les surmonter? C'est ce que je voudrais essayer. Ce sont les sujets que je voudrais essayer d'aborder. D'abord, pourquoi ces tensions? Je pense que la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran est tout d'abord de nature structurelle et a toujours existé. Par-delà, je dirais, les rivalités entre le monde arabe et le monde persan, il y a eu toujours de la part de l'Iran la volonté de contrôler ce golfe qui ne pouvait être que persique. Et dès que l'ordre britannique a disparu dans les années 1970, et que les différents émirats ont eu leur indépendance, le Shah, effectivement, a voulu s'affirmer comme gendarme du Golfe. Une autre raison, c'est que l'Iran, déjà du temps du Shah, avait la posture de protecteur des communautés chiites à travers le monde musulman et notamment le monde arabe, communauté chiite le plus souvent minoritaire ou parfois majoritaire, mais discriminée, comme par exemple en Irak ou au Bahreïn. L'autre élément de rivalité, c'était effectivement que, s'agissant des hydrocarbures, l'Iran et l'Arabie saoudite sont des concurrents directs. L'arrivée de la République islamique au pouvoir n'a pas arrangé les choses. Et effectivement, la situation s'est aggravée. en particulier dans les années 80, avec la volonté de l'imam Khomeini d'exporter la révolution, avec la contestation marquée du leadership de l'Arabie Saoudite sur le monde musulman, avec plus récemment le développement d'un programme nucléaire civil, mais qui pouvait avoir des aspects militaires, qui a été ressenti comme une menace directe par l'Arabie Saoudite, et puis surtout par le développement spectaculaire de l'influence de l'Iran sur l'ensemble du Moyen-Orient arabe. Effectivement, pour différentes raisons, et notamment du fait de la politique américaine qui a, je dirais, présenté sur un plateau d'argent, a ouvert sur un plateau d'argent l'influence de l'Iran, en particulier en Irak, à la suite de l'intervention de 2003. Ceci étant, du côté saoudien, il y a également des éléments, je dirais, qui expliquent cet affrontement. Le fait en particulier du soutien saoudien à Saddam Hussein pendant la guerre Irak-Iran, des problèmes d'accès à la Mecque qui ont provoqué des incidents différents en reprise, et puis le soutien évident de l'Arabie saoudite à des groupes d'opposition. Quoi qu'il en soit, pour l'Arabie saoudite, l'Iran est considéré comme, j'ouvre les guillemets, une menace existentielle. Alors que pour l'Iran, je dirais, la relation avec l'Arabie saoudite est d'une autre nature. Comment se manifestent ces affrontements ? Ces affrontements ont été multiples depuis 35 ans, avec des hauts et avec des bas. Il y a eu des tentatives de rapprochement, notamment à partir après la disparition de l'imam Khomeini. Le président Khatami est venu en 1999 à Riyad. Il y a eu des accords de coopération qui ont été signés. Donc il y a eu une période où les choses s'étaient détendues. L'arrivée du président Ahmadinejad n'a pas arrangé les choses. Et paradoxalement, alors que le président Rouhani, plutôt, je dirais, une approche plus apaisée des relations avec l'Arabie saoudite, les relations se sont de nouveau fortement dégradées et nous sommes, je dirais, à un niveau bas, pour ne pas dire très bas, à la suite de la rupture des relations diplomatiques en janvier 2016. Relations diplomatiques qui ont été, brisées à la suite de l'exécution de 47 terroristes. Sur les 47 terroristes, il n'y avait quatre chiites, les autres étant des sunnites. Mais l'Iran a réagi extrêmement brutalement à la suite, effectivement, de l'exécution de Sher Nimer el-Nimer, qui était un personnage assez violent en rhétorique, mais sans doute qui menait peu d'actions concrètes. Quoi qu'il en soit, cette réaction a été officiellement brutale, et elle est surtout très brutale dans des manifestations de masse peu contrôlées, ou tout au moins peu contrôlées par le président Rouhani, d'où effectivement une rupture des relations diplomatiques. Effectivement, les deux pays se trouvent en guerre plus ou moins larvée, plus ou moins active, par procuration sur plusieurs champs de bataille. Certains de ces champs de bataille sont un peu calmés actuellement. Je pense par exemple au Liban, où l'Arabie saoudite a joué un rôle très actif au moment des accords de Taif, très actif quand le Premier ministre était Rafik Hariri. Actuellement, on a l'impression que le Liban s'est résigné à l'influence grandissante du Hezbollah, qui effectivement a pris dans la vie politique intérieure du Liban une place prédominante. L'Arabie saoudite semble également résignée à ce que l'Irak soit devenu un pays avec un gouvernement chiite. Au départ, l'Arabie saoudite a sans doute envoyé quelques volontaires et apporté des financements aux insurgents qui se battaient à la fois contre l'armée régulière chiite du nouveau gouvernement et contre les États-Unis. Maintenant, il semble que l'Arabie saoudite se soit un peu résignée, comme le prouve le voyage récent du ministre saoudien des Affaires étrangères à Bagdad et l'envoi d'un nouvel ambassadeur. En revanche, il y a un certain nombre de champs de bataille où il y a un engagement par procuration. Je pense naturellement à la Syrie. Dès l'automne 2011, l'Arabie Saoudite a joué clairement le régime Change à Damas, en apportant son soutien aux rebelles, en continuant à apporter son soutien aux différents groupes réunis dans le haut comité de négociation, qui est effectivement le soutien de Riyad, en soutenant financièrement, également par l'envoi d'armes, un certain nombre de groupes salafistes, notamment Jaïch al-Islam. C'est à la fois une aide financière, une aide militaire et un soutien politique. À l'inverse, l'Iran, surtout à partir de 2015, s'est engagé quasi directement sur ce champ de bataille, à travers effectivement un certain nombre de milices chiites, notamment des Hezbollah, mais d'autres venant d'Irak, voire composés d'Afghans, mais également par l'envoi direct d'éléments iraniens, en particulier la brigade El-Quds, dirigé par Qassem Soleimani, qui y joue un rôle quasi de protecteur du régime de Damas. Mais il y a un troisième aspect qui est alors encore plus direct, c'est des interventions militaires directes, en particulier de l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, pour contrer le printemps arabe tel qu'il s'était manifesté place de la Perle, avec l'envoi dès mars 2011 de 1500 hommes accompagnés de blindés qui ont contribué à rétablir l'ordre. Mais c'est surtout effectivement au Yémen où l'intervention de l'Arabie saoudite depuis mars 2015 est massive. Une centaine d'avions de combat ont été envoyés, sans doute 100 000 hommes ont été envoyés, pas tellement par les Soudiens, mais en utilisant des mercenaires divers et variés, mais également des troupes venant des Émirats arabes unis, avec une double offensive, d'une part des diplomatiques, avec l'appui au gouvernement légal rétabli, qui est replié à Riyad, et en mettant en place une coalition de 10 pays, de l'Égypte au Pakistan, mais surtout, effectivement, offensive militaire qui se poursuit mais qui s'enlise avec effectivement peu de perspectives ni de victoire militaire ni de solution politique. S'agissant de l'Iran, l'Iran est-elle présente sur ce champ de bataille? Elle l'est sans doute, mais très discrètement, en apportant un soutien rhétorique, peut-être aussi quelques envois d'armes aux rebelles houthistes. Dans ce contexte, est-ce que on peut surmonter cet affrontement? Est-ce qu'un système de sécurité peut-il être envisagé? Eh bien, hier encore, le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, a proposé la mise en place d'un système de sécurité s'inspirant de l'OSCE. Un groupe de réflexion auquel j'ai participé avec Agnès Levallois a proposé un système un petit peu du même type. C'est effectivement des idées qui sont dans l'air déjà depuis quelque temps. Et effectivement, il semble que la raison devrait plaider pour une réconciliation, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pour l'Iran, la priorité actuellement, après cette période difficile des sanctions, c'est de restaurer la croissance économique, de développer le pays, un pays qui domine 80 millions d'habitants, dont les infrastructures sont encore insuffisantes. Donc l'Iran a besoin de ressources financières et n'a pas tellement intérêt, je dirais, à se disperser sur d'autres champs d'activité. Pour l'Arabie saoudite, elle est plutôt en position défensive sur des champs de bataille que j'ai évoqués, qu'il s'agisse de la Syrie où Bachar el-Assad est toujours là, au Yémen où l'armée saoudienne est enlisée, au Liban où l'Arabie saoudite est marginalisée, et dans le même cas, la même chose en Irak. Dans le même temps, l'Arabie saoudite connaît maintenant de graves difficultés financières à un moment où le dynamique prince vice-président héritier Mohamed Ben Salman veut lancer une grande politique de diversification dans le cadre de ce qu'il appelle la vision 2030. D'autres raisons pourraient conduire à penser que cette réconciliation répond aux intérêts mutuels des deux pays, en particulier le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite ont maintenant un ennemi commun, très clairement, l'État islamique. Alors un certain nombre de signes, effectivement, sont allés dans ce sens, notamment un accord sur le pèlerinage à la Mecque, une sorte d'accord implicite au Liban qui a permis l'élection du président de la République, Michel Aoun, et d'un président du Conseil, Saad Hariri, qui a la confiance des Saoudiens, un accord sur les prix du pétrole dans le cadre de l'OPEP. Donc un certain nombre d'éléments laissaient penser que les choses allaient dans le bon sens. Et effectivement, si l'idée de ce plan de sécurité pourrait partir de ce constat de ces intérêts mutuels et suppose, à mon sens, un certain nombre de gestes de bonne volonté de part et d'autre, sans doute de la part de l'Iran une plus grande discrétion dans ce qui constitue l'arrière-cour de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire essentiellement le Yémen et Bahreïn. S'agissant de l'Arabie saoudite, certainement un arrêt au soutien aux oppositions internes en Iran et un apaisement dans la rhétorique enflammée contre les apostats chiites qui est pratiquée le plus souvent par les imams saoudiens. L'idée qui pourrait être avancée serait celle d'une conférence qui pourrait effectivement mettre en place un système un peu comparable à ce qui existe en Europe avec l'OSCE. Cette conférence pourrait effectivement à la fois réunir non seulement les puissances régionales, mais également les membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Ce serait un format un peu comparable à celui des négociations sur l'accord nucléaire. Donc on sortirait de cette incapacité qu'ont les puissances régionales à se mettre d'accord entre elles, en faisant intervenir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. L'objectif, ce serait de définir les conditions d'un règlement des principaux conflits en cause, notamment le conflit syrien. Ceci supposerait qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes, que ce qu'on appelle à l'OSCE le décalogue, c'est-à-dire une dizaine de grands principes du genre non-ingérence dans les affaires intérieures, intangibilité des frontières, respect de la souveraineté des États, et également un certain nombre de mécanismes qui, par exemple, des mesures pour rétablir la confiance, en particulier cessation, par exemple, des attaques dans la presse des pays de la région, création d'un centre de prévention des conflits, mise en place d'un système de garantie. Ce système pourrait être géré par un léger secrétariat. Il ne s'agirait pas, je dirais, de mettre en place une machine aussi complexe et lourde qui existe en Europe dans le cadre du processus de Delphi. Ceci étant, ces idées qui flottent et qui ont été reprises donc hier par le ministre iranien, ces idées, je dirais, tombent dans un contexte qui n'est guère favorable à la suite du récent voyage du président Trump à Riyad, où le président américain s'est lancé dans une rhétorique extrêmement agressive, mettant dans le même sac Daesh, Al-Qaïda, les frères musulmans et l'Iran, tous coupables de terrorisme. Effectivement, l'ambiance n'y est pas. En plus de ça, effectivement, il y a actuellement, parmi les responsables de certains pays du Golfe, je pense en particulier à Mohamed Ben Salman, le Saoudien, et à Mohamed Ben Zayed d'Abu Dhabi, des responsables qui ont effectivement une approche assez vindicative à l'égard de l'Iran, source de tous les maux selon eux. Donc il faudra sans doute une diplomatie de la patience qui prendra peut-être un certain nombre de mois, peut-être d'années. Mais je pense qu'il faut, je dirais, lancer cette idée, essayer de la concrétiser, car seul, à mon sens, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite permettra d'amorcer, de contribuer à la stabilité du Moyen-Orient. Oui. Mais comme vous savez, au Moyen-Orient, parfois, des réactions émotionnelles jouent un rôle plus important que la raison. Espérons que cette fois-ci, la raison l'emportera un jour. Inch'Allah.
Merci beaucoup. Avant de donner la parole aux quatre panélistes pour qu'ils croisent leurs interrogations, je me permettrai de prendre deux ou trois minutes pour essayer, je ne dirais pas de faire ma synthèse, mais de tirer de ce qui a été dit un certain nombre de questions qui peuvent parfois s'adresser plutôt à l'une ou à l'autre, ou parfois à tous. Ma première question sera pour le professeur Safavi. Vous nous avez donc expliqué les différentes catégories de crises, et ce qui pourrait être fait pour avancer dans le bon sens. Et je retiens là-dessus deux points parmi tous ceux que vous avez évoqués, en pensant à ce qui a été dit par la suite sur ce que pourrait être une solution éventuelle des crises du Moyen-Orient. Quand vous avez parlé de la nécessité de soutenir les modérés ou de mettre en valeur une identité cosmopolite, c'était votre point de vue ou c'était le point de vue d'une fraction du pouvoir d'État à Téhéran? Est-ce qu'il y a eu une unité de vue à Téhéran sur ces principes? Et ma deuxième question, qui alors renvoie par avance à des thématiques qui ont été abordées ensuite, quand vous avez dit, c'était en gros c'était une partie de votre conclusion, que le temps était venu de prendre des décisions difficiles, pour qui? C'est-à-dire des décisions difficiles à prendre pour le pouvoir iranien, mais pour le grand ayatollah, pour le président, pour d'autres acteurs du pouvoir à Téhéran, ou bien des décisions difficiles pour l'Iran vis-à-vis des autres acteurs. Et là, ça me renvoie donc à d'autres questions qui ont été soulevées après, entre autres par Agnès Levallois, qui a mis en avant un fait nouveau qui était le rôle plus important des acteurs régionaux, j'aurais tendance à dire dans les conflits plutôt que dans la solution des conflits, montant en première ligne. Jusqu'à quel point, c'est-à-dire est-ce que dans ces acteurs régionaux on inclut Israël ou pas, dont personne n'a parlé je pense, est-ce qu'on s'appesantit sur le rôle des interventions occidentales et quels sont leurs objectifs? Mais en tout cas, il faut évidemment retenir que, et là sans doute la coalition mise en place à l'initiative de Riyad pour intervenir au Yémen est vraiment un cas de figure majeur. Jusqu'à quel point ça serait valable pour la Syrie, sans doute moins. Mais j'ai une autre question qui anticipe aussi sur ce qui a été dit par la suite. Quand vous avez souligné que l'un des enjeux clés pour les monarchies, c'était de faire face aux révolutions, qu'on les appelle le printemps arabe ou autre chose, et avec entre autres donc le paramètre des frères musulmans. Mais est-ce à dire, Et là, j'aurai un lien direct avec une question ou une remarque faite sur les propos de Denis Beauchamp. Quand vous disiez que au-delà de la dichotomie arabe-persan, il y avait une tension structurelle entre l'Iran et l'Arabie saoudite, est-ce que l'un et l'autre, vous nous dites, contrairement à ce qui est un propos qu'on entend souvent ici, où on résume une part de la... Enfin, c'est supposé être une part décisive de la tension Iran-Arabie saoudite, qui est la dichotomie chiite-sunnite. À vous entendre l'un et l'autre, on voit bien que ça va bien au-delà de cela. Mais est-ce que la dichotomie chiite-sunnite reste fondamentale, ou bien est-ce qu'elle est en réalité instrumentalisée, peut-être pour plaire aux opinions publiques ou pour plaire à je ne sais qui, puisque le paradoxe, c'est que je préside un panel sur une région dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça, c'est le plaisir du Huron d'offrir des commentaires éventuellement décalés. Et je m'arrêterai sur une dernière remarque, sur deux remarques. La première, c'est sur ce que disait Ali Kazantzidis à propos des erreurs de la stratégie Erdogan. Et ça renvoyait à un des propos importants tenus ce matin et mentionnés plusieurs fois, qui était l'importance des enjeux nationaux, mais j'entends par là des jeux politiques nationaux, comme un des paramètres de définition de politique étrangère, de définition de stratégie régionale, qui pouvait aller complètement à l'encontre de ce que pourrait être une autre définition de l'intérêt national, qui n'est pas forcément l'intérêt du parti au pouvoir. Et là, on a une question transversale qui a été mise sur la table ce matin. Et mon dernier point, en pensant aussi à ce qui a été dit ce matin et aux perspectives soulevées par Denis Beauchard, disant finalement, en dépit de tout, il y aurait peut-être un moyen de défricher des champs communs entre l'Iran et l'Arabie saoudite. À cause de l'ennemi commun de Daesh. Et là, c'est évidemment une grande interrogation, parce qu'il n'apparaît pas pour le néophyte que la menace de Daesh soit suffisante pour le moment. Mais de façon complémentaire, vous soulignez que, finalement, l'intérêt bien compris d'un Iran qui a besoin de financement, d'une Arabie saoudite dont l'économie va être affectée vis-à-vis de ce qu'est la manne pétrolière. On a l'impression que, en fait c'était l'esprit de votre conclusion je pense, hein, que d'un côté il y a ce que serait la raison qui permettrait de toucher les dividendes de la paix, et de l'autre côté il y a un tas de facteurs qui font qu'on en est très loin. Et là, évidemment, c'est un défi pour les analystes de géopolitique en général et de géopolitique appliquée en particulier. Donc, ceci étant dit, à vous de poser les questions que vous souhaitez à vos copanélistes. Oui, bien sûr.
Mais juste un petit point, mais enfin, du point de vue de mon sujet, c'est important. L'une des raisons pour lesquelles il y a une réticence vis-à-vis de la Turquie au Moyen-Orient, c'est la reconnaissance d'Israël en 1948, dès 1948, et le fait que les relations n'ont jamais cessé. Et une deuxième question, je ne voudrais pas paraître comme un cuistre qui donne des leçons, mais on parle très souvent comme un facteur absolument fondamental, c'est vrai d'ailleurs, c'est très important, mais le facteur fondamental, l'opposition sunnite-chiite. D'accord, ça existe, mais je voudrais revenir à celui qui a créé la discipline de la sociologie historique des religions, Max Weber. Pendant très longtemps, il a travaillé sur toutes les religions du monde, il a pensé que la variable surplombante qui conditionnait les évolutions des sociétés était la religion, la culture. Et à la fin de sa vie, il a dit « j'ai changé d'avis définitivement ». La religion, la culture, c'est pour mobiliser l'action individuelle ou collective, c'est pour donner sens à l'action. La variable fondamentale, ce sont les variables ou les évolutions, les questions économiques et sociales. Donc, au Moyen-Orient, donc, la variable religieuse est très importante, mais moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas lui donner une place trop exclusive.
Oui, enfin, merci d'avoir répondu clairement à la question que je posais quelques minutes plus tôt.
Justement, parce que c'est exactement la réponse que je voulais faire à votre interrogation sur la dichotomie sunnite-chiite, pour dire que je partage complètement le point de vue qui vient d'être développé par Ali, que ça me paraît être une évidence, qu'il y a une espèce de facilité aujourd'hui ici à tout analyser à travers cette rivalité sunnite-chiite, en mettant toujours en avant l'Arabie Saoudite et l'Iran pour dire que c'est ça le point, que c'est une instrumentalisation, c'est absolument évident dans les rapports de force entre les de puissance régionale. Et ce qui est important, c'est une rivalité de puissance régionale, et cet aspect, évidemment, est mis en avant pour dire que c'est un aspect religieux. Mais c'est fondamentalement, pour moi, ça n'est pas un aspect religieux. Et je trouve d'ailleurs que la crise actuellement entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, vous allez dire que je fais un peu une fixation là-dessus, mais c'est pas une crise entre sunnites et chiites, puisqu'on est, c'est une crise vraiment dans le camp sunnite et qui est clairement définie de la sorte. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette approche qui est communément admise et répandue par des analystes ou autres, de tout voir à travers ce prisme sunnite-chiite. C'est une dimension, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de la mettre de côté, mais ce sont avant tout des rivalités de puissance régionale, et que c'est ça qu'il faut absolument mettre en avant, et c'est ce sur quoi il faut travailler. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est assez simple de dire il y a les sunnites, les chiites, tout le monde se bagarre à cause de ça, et la vie est belle. Non, ce n'est pas ça, et quand on approfondit, mais ce n'est pas le lieu ici de travailler sur le conflit yéménite, on s'aperçoit bien que la grille de lecture sunnite-chiite n'a aucun sens dans le conflit yéménite que les Saoudiens ont soutenu pendant très longtemps les houthistes, qui sont aujourd'hui présentés comme des chiites. Ce ne sont pas des chiites quand même tout à fait orthodoxes, si vous me passez cette expression, et que l'Arabie Saoudite les a soutenus à un moment. Donc il faut sortir de cette grille d'analyse qui est absolument réductrice et qui ne permet absolument pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et juste peut-être pour Israël un mot, parce que là aussi c'est intéressant, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui, ou en tous les cas il y a une aspiration plutôt qu'une volonté, d'essayer de mettre en place ce front des monarchies avec l'Égypte, ce qu'on appelle le front sunnite. Donc là on revient, alors que je disais à l'instant que ce n'était pas une grille de lecture, mais il y a une volonté en tous les cas de certains de mettre ça en avant avec Israël, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un intérêt partagé par Israël et les pétromonarchies du Golfe, mais également de l'Égypte, vis-à-vis justement des frères musulmans, de la lutte menée par ces pays contre les frères musulmans. Et donc là, il y a vraiment une concordance de vue entre Israël et l'Arabie Saoudite sur ce sujet, et évidemment aussi dans la position vis-à-vis de l'Iran. Donc on a bien vu aujourd'hui les petits pas qui sont faits, avec en particulier la visite du chef des renseignements saoudiens en Israël. On voit bien qu'il y a une tentative là d'essayer de mettre en place ce front, parce qu'il y a deux ennemis clairement identifiés et sur lesquels tout le monde se rejoint, dans l'occurrence Israël et ses pays du Golfe en particulier, qui est la question de l'islamisme politique, des frères musulmans et donc du Hamas pour Israël, qui est un élément important, et l'Iran. Et l'Iran, pourquoi ? Parce que c'est le Hezbollah, et que la priorité numéro un, je crois, aujourd'hui pour Israël, c'est le renforcement du Hezbollah à la faveur du conflit en Syrie. Et que je reviens de Beyrouth et j'étais frappée dans les discussions avec mes amis libanais. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait cet été une intervention israélienne au Liban. Vrai ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que dans toutes les discussions ne tournent qu'autour de cette hypothèse, de cette éventualité, parce que l'argument avancé par les Libanais, c'est de dire que Israël est très inquiet du renforcement du Hezbollah, et donc pourquoi ne pas lancer une opération cet été pour mettre un coup d'arrêt à cette expansion ou ce renforcement du Hezbollah à la faveur du conflit syrien.
Oui, peut-être. S'agissant d'Israël, il est clair que l'objectif des États-Unis et d'Israël, c'est effectivement essayer de constituer une sorte de coalition. Il se trouve que j'étais en Israël en 2006 et déjà j'avais été frappé en visitant les think tanks israéliens de voir à quel point d'abord l'Iran était considéré effectivement comme la menace existentielle et que la question palestinienne passait vraiment au deuxième rang. C'était un conflit de basse intensité qu'on pouvait réguler sans trop de problèmes, alors l'Iran et le Hezbollah représentaient la menace essentielle. Et cette coalition of the willing, comme on m'avait dit à l'époque, apparaissait comme la panacée. Je dois dire que je suis assez sceptique. Qu'il y ait entre l'Arabie saoudite et Israël des coopérations discrètes au niveau du renseignement, peut-être même au niveau économique, mais je ne pense pas que ça puisse aller très loin. Et compte tenu de l'état d'esprit des opinions publiques arabes, qui, oui, d'une façon générale musulmane, mais spécialement arabe, je vois mal comment une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite ou d'autres pays arabes et Israël pourrait intervenir sans que la question palestinienne ne soit réglée. S'agissant de la dichotomie, enfin de l'antagonisme sunnite-chiite, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec Agnès. Il s'agit d'une instrumentalisation et d'une instrumentalisation de part et d'autre. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'Iran se pose en protecteur des communautés chiites, y compris des communautés chiites qui n'ont rien à voir avec le chiisme du haut décimain iranien. Comme par exemple les Alaouites, les Houthis, les Zaïdites au Yémen. Et donc c'est effectivement c'est un prétexte, je dirais, pour une mobilisation et une instrumentalisation des opinions publiques de ces communautés chiites. Et à l'inverse, l'Arabie saoudite fait la même chose lorsqu'elle se pose en leader d'un monde sunnite qui serait menacé par le chiisme.
Professeur Savary.
Middle East. I should mention that the main point is not Shia and Sunnis. Government of the Saudi Arabia are secular in private life. You know, they are not mentioned about the religious. Religious just use as a tools for spreading power in the Persian Gulf and among Muslims countries. That's important. And about Iran is also. As you see about the conflicts between Armenia and Azerbaijan, also you see that the major of the Azerbaijan's people is Shia. But Iran helps to Armenia. Why? Because the main problem is not Shia and Sunni. There is a centuries inside Iran, Sunni and Shia lives together without any problem. These problems caused by the government, political governments, to spread their interests and achieve their interests. Okay. About the cosmopolitan and identity and something you ask. In Iran, we have several parties, traditional and modern, and they are fight together. Ahmadinejad belongs to traditional somehow, and Mr. Khatami and Rouhani belongs to some modern. My idea is near to modern parties in Iran, not whole of the Iran in they are who in power and about the academic and intellectual. We have several intellectuals from the very, very destructive and something like Salafism to modern. And it's important. My concern is to make a network during the Persian Gulf countries and Middle East countries who have almost the same idea, who care about peace, who care about the... they don't want to have fights for nothing. Another question, difficult decision for whom? I think not just for Iran, because Iran and Saudi Arabia and Turkey, they are all have to. Because if they don't decide now, after 10 years and losing monies and fighting for nothing, they will be have this situation the same. No one can win this fight. No one. Okay.
As we are still 2 minutes, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, d'essayer de construire un réseau de ceux qui voudraient faire changer les choses. Est-ce que vous voyez, et la question s'adresse à tout le monde sur cette table, est-ce que vous voyez des possibilités, plutôt par le biais des think tanks, soit dans la région, soit, et alors là je parle en tant que spécialiste de l'Inde et du Pakistan, où les gens qui veulent la paix se réunissent plutôt en dehors de l'Inde et du Pakistan, à Bangkok, à Katmandou, ou plus loin. Est-ce que, avec votre expérience collective, vous pensez que ce second track ou ce third track diplomatie peut avoir une chance de commencer pour aller dans le sens que finalement, d'une extrémité à l'autre de la table, on voit bien que c'est la réflexion en cours pour tenter de répondre à la question posée par le panel après les crises, quel ordre au Moyen-Orient ? Est-ce que la diplomatie de second track a un espace ou bien pas encore?
Oui, si, je crois qu'elle a un espace et elle est active sur ce sujet, en particulier dans le cadre de l'organisation qui s'appelle HD, Human Development. Donc il y a des contacts, mais il est clair que le contexte actuel, et contexte à mon avis aggravé après... à la fois le discours du président Trump à Riyad et puis les initiatives prises par l'Arabie Saoudite et les Émirats qui vont plutôt dans le sens de va-t'en guerre tous azimuts. Le contexte actuellement est peu favorable et je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps avant que des choses puissent progresser. Je pense qu'il y a des éléments, des forces qui de part et d'autre souhaitent ce rapprochement, je pense que c'est le cas du président Rouhani, certainement. C'est pas sans doute le cas d'autres éléments en Iran. Et la même chose en Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a là aussi un camp de la paix ou tout au moins un camp de la raison. Mais actuellement, c'est plutôt les va-t-en-guerre qui sont à la pointe. Voilà.
Alors j'irais juste peut-être là-dessus, c'est que peut-être que là il y a une chance, une possibilité pour une diplomatie européenne ou française, voilà. Peut-être d'essayer de faire quelque chose en la matière. On peut l'espérer.
Allez, une dernière, où vous souscrivez à ce qui vient d'être dit.
Je souscris parfaitement tout ce qui a été dit.
Bien, ben nous terminerons sur cette note qui fait à la fois le constat d'une situation présente très difficile, mais il y a quand même un petit horizon qui pourrait s'ouvrir. Merci à tous et à toutes.